Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes au lundi 27 mai 2024 et il sont 11h, passé de quelques instants sur La Nouvelle Génération. Merci de nous choisir pour ce premier numéro alors de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou Vitok Betomega est à la mise en onde. Jérôme Akoucha est revenu alors de son congé, je pense très en forme bien sûr. Alors il assure la mise en ligne alors de cette émission. Je suis au micro Pascal Lossou. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpame, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapao. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes, vous savez que chaque jour avec son équipe, ce lundi, déjà ça rime avec Uriel Nyong. Uriel, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Canal FM. Bonjour spécial à tous les responsables de ces services qui fournissent tant d'efforts pour faire fonctionner leurs services à travers les moyens de bord lorsque le courant électrique vient à rompre. C'est salutaire parce que c'est pas facile, il faut acheter régulièrement du carburant pour alimenter et faire fonctionner les services. Donc un bonjour spécial à tous ceux-là, ils se connaîtront. C'est pas facile, mais ce qu'ils font, c'est un service pour tout le monde.
Je pense que Canal FM n'est pas épargné puisque actuellement nous sommes en délestage, mais nous fonctionnons. Et merci pour ce clin d'œil alors que vous venez alors de nous faire. Alors Jacques Diakouti, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM. Je voudrais saluer particulièrement nos compatriotes qui ne sont pas actuellement dans leur domicile à cause des inondations. Et saluer également ceux qui sont actuellement dans les hôpitaux, qui nous suivent, qui sont sûrement malades. Et un salut particulier à Jérôme qui a fait un tour en Israël parce que je l'ai vu porter l'écharpe d'Israël ou bien c'est Liverpool. Je ne sais pas.
Décidément, je ne sais pas non plus. Oui, donc, s'il a fait un tour en Israël.
Ok, donc bonne arrivée à lui. Une fois encore, Pascal souhaitait effectivement les compassions à tous nos compatriotes qui traversent des moments un peu difficiles. Tout à l'heure, il a parlé du délestage. Il faut reconnaître que c'est vraiment un sujet problématique. Dire à nos autorités de tout faire pour régler effectivement cette situation, pour permettre effectivement à ces petits commerçants que nous avons au bord de la route, les soudeurs et ceux qui font de l'alu, ceux qui vendent un peu dans les marchés hautes, que les uns et les autres puissent vraiment trouver quelque chose à faire pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Une fois encore, souhaiter bonne chance à nos élèves, à nos enfants qui iront au bac 1 demain. Je souhaite beaucoup de chance et qu'ils puissent avoir de l'électricité dans leur quartier pour pouvoir réviser leurs leçons.
C'est aussi ça l'essentiel. Merci beaucoup, Jacques, d'avoir répondu à notre invitation. Didier, le fils alors de Couvé, aussi est là. Didier Assogwa, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour.
Très élégant ce matin.
Ah, merci. Merci. Il faut se faire des fois plaisir, même s'il n'y a pas de l'électricité et que les choses sont compliquées dans le pays. Il faut se faire plaisir. Hein. Donc, bonjour à toi, bonjour à mes aînés, Uriel et Nyang en face de moi, qui n'est pas moins élégant. Ce matin aussi. Et le doyen, le président, toujours élégant, très propre, Jacques Diakouti. Et donc, toujours à l'heure. Ouais. Pas comme nous, les jeunes. Nous nous débattons par ici, par là. Donc, bonjour à tous ceux qui nous suivent, ceux qui ont le pied dans l'eau, ceux qui ont des situations difficiles depuis quelques jours. À Lomé, dans ses environs, un peu partout à travers le territoire togolais, nos compassions à chacun d'eux, nous croyons que ça va passer.
D'accord, nous croyons que ça va passer, mais il est très important quand même qu'on prenne des dispositions. Nous allons en parler, hein, bien sûr, et c'est ce que nous prendrons même d'ailleurs pour ouvrir cette émission. Je veux bien parler de cette question d'inondation. Uriel, c'est vrai que déjà depuis le samedi, le petit matin à l'heure du samedi, déjà aux environs de 1h30, alors cette grande pluie a commencé. Et finalement, on a compris que cette pluie n'a pas fait du bien quand même aux Togolais.
Cette pluie n'a pas fait du bien aux Togolais. Non, elle a fait plus du bien que de mal. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas fait du bien.
Ah non, vous l'avez dit tout de suite, il y a des gens qui ont aujourd'hui le pied dans l'eau. Quand tu circules dans beaucoup de quartiers, hein, on voit quand même qu'il y a des gens qui ont le pied dans l'eau. Alors, ce n'est pas du bien quand même que cette pluie leur a fait.
Non, attends. Nous allons être d'abord objectifs. Avant d'être compatissant envers ceux qui ont leurs pieds dans l'eau, hein, il faut qu'on soit objectif. Entre ceux qui ont leurs pieds dans l'eau actuellement, s'il ne plaisait qu'à Dieu de nous poser cette question, entre la poursuite de nos activités qui dépendent de la pluie et ceux qui ont leurs pieds dans l'eau à Lomé, qu'allons-nous choisir? Ça, il faut qu'on soit objectif. La pluie, ce n'est pas quelque chose d'artificiel, c'est un phénomène naturel. Elle est arrivée et comme chaque année, nous vivons un espace, un endroit très plat, un endroit sans clivage, sans pente, sans inclinaison. Et nous devons nous attendre. Moi qui vous parle ici, je ne suis pas épargné de la vie d'un batracien lorsqu'il pleut à Lomé. Mais il faut reconnaître quand même que cette pluie, on ne peut jamais dire qu'elle a fait plus de mal que de bien, parce qu'on en a besoin pour tous travaux. Si vous avez lu notre hymne, nous avons titré « L'eau source de vie hein, »,« L'eau en abondance à Lomé ». C'est d'abord la source de vie. Quoi qu'on dise, vous avez vu le 17 avril dernier à Dubaï. Dubaï, l'une des plus grandes villes du monde entier. Même l'aéroport a été envahi à plus d'un mètre de hauteur d'eau.
Après tout, c'est la Chine.
Non,
également été.
Non, Dubaï, c'est aux Émirats Arabes Unis. Donc, vous savez, c'est la pluie, quoi qu'on dise, on vivra ces phénomènes. On doit prendre les dispositions nécessaires. Nous devons nous y attendre tant que nous serons dans cette situation et reconnaître aussi que ce n'est pas facile, quels que soient les moyens qu'on mettra aujourd'hui en place. Loin pour moi de dédouaner ceux qui doivent nous épargner de cette inondation. Parce que l'inondation vient de la pluie, mais il y a des gens qui doivent nous aider à éviter l'envahissement de l'eau. Ça, nous sommes d'accord. L'un pour moi de les dédouaner. Vous savez, cette pluie, elle viendra toujours. Il va pleuvoir en temps de pluie. Maintenant, les zones inondables seront toujours inondées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, un Béninois nous disait la dernière fois, si nous voulons, nous pensons que Cotonou peut être reconstruite pour éviter les inondations. C'est qu'on prendra toute la population de Cotonou, venir louer un endroit à Lomé, les déposer ici et recasser toute la ville de Cotonou pour reconstruire. Sinon, ce n'est pas possible d'éviter les inondations. Moi, je ne crierai pas le nom de quelqu'un, mais je dis tout simplement, si les moyens y sont, ça, si actuellement l'autorité a les moyens de mettre des dispositifs en place, capable d'évacuer l'eau en un temps record lorsqu'il pleut vers la mer, qu'elle le fasse. Mais si ces moyens, l'autorité arbitre et voit que pour l'instant, ces moyens sont déployés ailleurs et qu'avec le temps, elle verra, tant mieux. Sinon, la pluie, on a crié hein, depuis qu'il a plu le 25. On a beaucoup crié. Mais après tout, lorsque j'ai réfléchi, je me suis dit, mais tenez, après tout, l'eau, c'est source de vie. Mais si nos habitations ne sont pas commodes. Si on n'a pas planifié la ville de Lomé et que nous subissons cela, bon, nous tous, on va récolter les conséquences et on va y penser.
D'accord, ok. Jacques, c'est vrai, l'eau, c'est la source de vie, mais également, l'eau peut être aussi une source de désastre. Parce que, allez, quand on voit aujourd'hui nos concitoyens, où on voit et beaucoup de personnes quand même dans des quartiers, des différents quartiers, on se souvient même d'ailleurs aussi de ces images, hein, surtout sur les deux rétentions d'eau au niveau, alors de, à, comment l'appelle-t-on, de Lyon, qui ont débordé. de telle enseigne que l'eau est rentrée dans les maisons des gens, des habitants, bien sûr, alors de ce quartier. Alors, finalement, on dirait quand même que source de vie, mais également source de désastre.
Source de mort également. Vous savez, c'est vrai que l'eau, c'est source de vie, mais quand il pleut beaucoup, quand l'eau déborde, il faut reconnaître que c'est la catastrophe. Et c'est ce que nous avons constaté dans la ville de Lomé et de ses environs, surtout cette pluie de samedi. Ça a créé beaucoup de dégâts dans notre capitale. Il faut reconnaître qu'il y a toujours nos compatriotes qui n'ont pas regagné leur domicile. Il y en a également, pour aller dans leur domicile, ils sont obligés d'utiliser des moyens pas peut-être adaptés pour pouvoir regagner leur domicile. Et certains qui cherchent également à quitter carrément les quartiers. Donc, je crois qu'il est important aujourd'hui d'interpeller le gouvernement. Hein? Il est important d'interpeller le gouvernement aujourd'hui pour chercher effectivement les solutions. Je sais que ça ne serait pas facile de le faire, mais il faut quand même commencer à un moment donné. Il faut commencer par des quartiers, cibler surtout des quartiers où souvent quand il pleut, il y a des problèmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'ensemble de notre ville, surtout de la ville de Lomé, il n'y a pas un quartier qui est épargné aujourd'hui. Il y avait des quartiers qui étaient épargnés, mais aujourd'hui, quand vous voyez ces quartiers-là, vous vous posez des questions. Qu'est-ce qui se passe? On a parlé au niveau de Lyon. Nous savons qu'il y a une retenue d'eau, un bassin au niveau de Lyon. Mais qu'est-ce qui fait que ce bassin-là déborde? Et que ce bassin-là, au lieu de protéger les populations, constitue une source de problèmes à ces populations. Donc, il est important qu'une réflexion soit menée au niveau de l'assainissement de notre ville et surtout de la capitale. Autre aspect, moi j'interpelle le gouvernement parce qu'il faudrait commencer quelque part. Vous voyez effectivement ces eaux qui sont déversées un peu partout. On peut par exemple canaliser ces eaux et créer par exemple des barrages qui pourront aider à l'alimentation même encore des populations. Créer par exemple des tunnels de Lomé jusqu'à Saint-Cancé. Il faut que le gouvernement puisse commencer par chercher effectivement les moyens. Si on cherche les moyens, petit à petit, on peut le faire. Nous avons vu comment Togocom a déployé la fibre optique jusqu'à Dapaon. Si le gouvernement veut également, peut utiliser cette méthode-là pour créer des tunnels et essayer d'étendre par exemple ces eaux-là vers l'intérieur du pays en créant des barrages. C'est-à-dire que arrivé à des localités, on crée un barrage en déversant par exemple ces eaux-là dans ces localités-là. Et même en saison sèche, ces eaux-là pourront permettre effectivement à une population de pouvoir cultiver. Et on va voir que nous n'aurons pas dans notre capitale, surtout on n'aura pas plutôt dans notre pays, un moment où on va dire qu'il n'y a pas d'eau pour pouvoir cultiver. C'est-à-dire que le Togo aura l'eau en permanence pour pouvoir cultiver. Pour ceux qui ont eu la chance de voyager pour aller en Israël, ils pourront vous le dire. Israël pratique aujourd'hui la culture de goutte en goutte. C'est-à-dire que si on fait par exemple cette canalisation, on crée par exemple ce tunnel vers l'intérieur du pays, ça peut vraiment booster l'agriculture au Togo. Donc je crois qu'il faudrait commencer quand même quelque part. Il faut commencer. Ça, il faut le reconnaître. Parce qu'aujourd'hui, les populations se plaignent qu'avant par exemple ces bassins, il n'y avait pas de problème d'inondation. Mais les gens ont constaté que ces bassins-là créent effectivement les inondations dans les quartiers. Il faut qu'une réflexion soit vraiment menée. Est-ce que ce sont les bassins-là qui ne sont pas bien construits ou bien quel est le vrai problème? Donc je crois qu'il faudrait, c'est vraiment une réflexion et cela nécessite également de gros moyens. Parce que pour créer les tunnels vers l'intérieur du pays, c'est pas mince à faire. Mais il faut quand même commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Si on ne peut pas créer par exemple des tunnels vers l'intérieur du pays, il faut quand même canaliser par exemple l'eau là vers la mer et pour pouvoir permettre effectivement à une population lorsqu'il pleut, au lieu de tenir la tête, mais qu'on soit heureux, comme l'autre l'a dit, au moins que l'eau constitue une source effectivement de vie pour nous. Mais ce que nous constatons, dès qu'il commence, vous voyez que le ciel commence par s'assombrir dans notre capitale, les gens tiennent leur tête. Qu'est-ce qui va arriver? Donc je crois que Il faut vraiment chercher des solutions.
Et justement, il faut chercher des solutions à cela. Alors, c'est vrai que le débat, ce débat, nous le menons chaque fois, hein, quand il y a même d'ailleurs des inondations, et aussi pour chercher alors de solo, pour remédier même d'ailleurs à ce problème. C'est pour cela même d'ailleurs que des bassins de rétention d'eau sont créés partout dans la capitale. Mais finalement, ces bassins constituent plus encore de problèmes.
Véritablement, je pense qu'il faut qu'on commence par mettre de côté les éléments ou les motifs de satisfaction pour qu'on réfléchisse assez fondamentalement sur comment on pourrait trouver des solutions. Alors, je vous explique le moins que je sais, parce que ayant vécu dans une zone inondable, moi-même ayant été victime déjà d'inondations à Lomé, j'étais en troisième année à l'université, j'avais perdu tous mes documents, tous mes papiers, j'ai dû tout reconstituer à cause de l'inondation. Qu'est-ce qui se passe généralement dans ces quartiers? Alors, vous avez des quartiers où, généralement, au début, il y a moins d'habitations. Et donc, il y a moins de maisons construites. Et quand l'eau vient, même quand on met des bassins de rétention, parce que c'est des zones inondables, quand on met des bassins de rétention, il y a quand même des quantités d'eau importantes qui stagnent dans les parcelles non construites, vides, et qui, donc, on va dire, viennent au secours de ces bassins de rétention. Or, quand le gouvernement met ou construit les bassins de rétention, c'est des zones généralement qui ont l'aspect d'une zone assainie. Et donc, les propriétaires des terrains là, ils trouvent que maintenant, il n'y a plus tellement d'eau, viennent construire. Une fois que des gens construisent des maisons autour de ces bassins de rétention là, il n'y a que la capacité de réception de ces bassins-là qui comptent maintenant. Donc, les eaux qui stagnaient dans des lots, sur des parcelles vides, dans des endroits où il n'y avait pas d'habitation, viennent toutes directement donc, dans les bassins de rétention. Et on constate généralement que ces bassins sont vite dépassés. Alors, vient l'inondation, parce que si les bassins sont dépassés, vient alors l'inondation. Moi, je suis à Huiti, ici. Vous voyez, c'est une des rares fois qu'on a vu le bassin de Gbézé là tellement rempli jusqu'à aller jusque dans des maisons, prendre la plupart des ruelles là-bas, couper le boulevard Jean-Paul II par deux et aller jusqu'à l'autre côté, pour ceux qui connaissent le cafétéria Barry, prendre toute la direction là-bas, et il y avait toutes les difficultés.
Mais ça dépend aussi de la quantité de pluie.
Et de l'autre côté de l'avenue à Akei, il n'y avait même pas de moyens de circuler parce que c'était vraiment une marée importante d'eau. Donc, là, pour régler ces problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a déjà des bassins de rétention. Je pense qu'il y a quelques collecteurs qui avaient été construits il y a quelques années et qui ont permis d'avoir un léger mieux dans certains quartiers, comme dans des zones de Baie, dans des zones de Saint-Joseph, par là. Il y a eu des collecteurs qui avaient été construits qui ont permis quand même d'avoir un meilleur résultat dans un certain nombre de quartiers. Alors, pourquoi ne multiplie pas ces collecteurs? Peut-être vers la lagune, vers la mer, ou dans des zones proches des rivières, comme Kégué, comme, je sais pas, les Alenka, les Dikamé et tout ça. Pourquoi ne multiplie pas ces solutions de collecteurs qui peut-être relier les bassins entre eux d'abord, et puis mettre dans les collecteurs la quantité, l'overdose d'eau qui vient dans les bassins, pour les drainer directement, soit vers le Zio, soit vers les lagunes, ou soit vers la mer. Je pense que c'est peut-être sur ces pistes-là qu'il faut évoluer aujourd'hui. Il y a quand même quelque chose qui a été fait il y a des années avec le projet Piri, si j'ai bonne mémoire, qui a permis à des zones comme Tocci, Agbalépédo de souffler un peu. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des solutions qui ne tiennent plus. Il faut peut-être réfléchir à comment on accentue ces solutions-là pour avoir un léger mieux, pour que lorsque les pluies commencent dans ces quartiers, on puisse les collecter directement pour drainer vers la mer et tout. Au-delà, puisqu'on n'a que les bassins pour le moment, le pompage qu'on déclenche après la pluie, donc après que les zones soient inondées, moi, je pense que ce n'est pas une bonne solution. Si on peut trouver un mécanisme aujourd'hui où, à un niveau donné, à un seuil donné, au niveau de ces bassins-là, le pompage automatique commence pour évacuer le surplus de ces bassins-là, ou même mettre deux ou trois motopompes sur, au niveau de ces bassins-là, parce que sur la plupart, il n'y a qu'un motopompe qui déclenche après ou quand quelqu'un vient démarrer après le remplissage. Mais je pense qu'on peut trouver un mécanisme où on met deux ou trois motopompes. Si on ne veut pas que les bassins soient remplis et inonder les gens, on met deux ou trois motopompes qui déclenchent automatiquement un seuil donné pour éviter que ces bassins ne soient remplis pour inonder les maisons.
D'accord. Uriel, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin quand même des solutions définitives? Parce que c'est vrai, tel que Didier le disait tout de suite, on a l'impression qu'on trouve toujours alors de solutions palliatives à ces problèmes, d'inondation. On se souvient même d'ailleurs au cours de cette inondation ou après la pluie de samedi, il y a le ministre de la Sécurité, il y a aussi des agents de l'ANPC qui sont sur le terrain pour pour arriver même d'ailleurs à faire le pompage même d'ailleurs de l'eau. Mais là aussi, ce n'est pas la définition, la solution définitive.
Non, tu sais, Pascal, le gouvernement, à mon avis, hésite des fois sur des dispositions qu'il prend. Tous les gouvernements se succèdent ici, mais on a comme l'impression qu'il y a un petit souci. C'est comme on ne veut pas mettre en application ce qu'on décide. C'est ce qui nous crée des problèmes. Vous savez, avant de construire une maison, il faut obtenir le permis de construire. Aujourd'hui, s'il faut identifier ceux-là qui ont obtenu le permis de construire, parce que avant d'obtenir le permis de construire, mais c'est une procédure. Après avoir obtenu le permis de construire, je pense que le domaine sur lequel vous allez construire est un domaine approprié à la construction d'un local. Mais si aujourd'hui on doit procéder à la vérification pour voir ceux qui ont le permis de construire avant de le faire, outre l'explication fournie tout à l'heure par Didier, et l'étendue de l'agglomération, la saturation des maisons, ça c'est une réalité. Mais il faut avouer que pour trouver une solution définitive, il y a deux parts de responsabilité qui ne vont pas permettre de trouver une solution définitive aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait pas une planification avant la construction de la ville de Lomé. Aujourd'hui, chacun construit. Il suffit d'acheter, tu construis. Mais s'il y avait la planification, là, on saurait comment canaliser les eaux. Aujourd'hui, la canalisation dont tout le monde parle, ça va nécessiter le déguerpissement, le délogement des gens, pour casser et canaliser, ce qui est très compliqué. Même la simple nationale numéro 1 qu'on veut dédoubler depuis là, ce qui freine l'État, c'est comment indemniser ceux-là qui sont les riverains de la route. Les coûts qu'ils donnent, c'est trop cher. Aujourd'hui, on doit procéder à ça. C'est pourquoi je veux tenter de dire que c'est presque impossible de trouver une solution définitive à l'inondation à Lomé, parce que la ville n'était pas planifiée. Maintenant, c'est que l'autorité pouvait faire en attendant. L'année passée, Jacques et beaucoup de journalistes ont développé cette thèse. C'est d'arrêter l'avancée de la ville de Lomé pour au moins commencer par planifier au-delà de ce qui constitue aujourd'hui la ville de Lomé, le Grand Lomé, la préfecture du Golfe et d'Agonivet. C'est d'arrêter. L'État a le pouvoir d'arrêter.
Et comment ça? Comment l'État pourra le faire?
Non, c'est très simple. On construit parce qu'on a acheté un terrain.
Tout à fait.
Oui, on construit parce qu'on a acheté un terrain. Si l'État dit aujourd'hui, à partir de Thévier, ou bien après tel, il n'y a plus possibilité de construire tant que l'État n'a pas encore donné son autorisation, personne ne peut construire. Personne ne pourra. Parce que tant que la ville avance dans le désordre, ce désordre-là nous mettra toujours en permanence dans les inondations. Tu vois, c'est que Didier venait de développer. Il y a un aspect qui se cache derrière et que la météo nous avait expliqué la dernière fois, l'année passée. Je me rappelle bien, quand on se pose la question tous les jours, d'où vient cette eau? Alors qu'il y a 2 ans, 3 ans, on n'avait pas... C'est comme si c'était une eau surnaturelle. Ouais. Ce n'est pas une eau surnaturelle. Regarde un endroit où il n'y avait aucune maison. Et maintenant, il y a 5 maisons en dalle. L'eau d'une seule maison, d'une seule dalle. Si tu suis les tuyaux d'évacuation d'une dalle, l'eau qui coule d'une seule dalle et des 5 dalles, l'eau là associée, ça fait déjà une rivière. Alors que lorsqu'il n'y avait rien, quand l'eau de pluie tombe, le sol l'aspire immédiatement. Donc, ce n'est pas sorcier. Tant que nous serons dedans, dans la construction désordonnée, on sera toujours des batraciens. Quand les nuages se forment, attendons-nous. Attendons-nous très bien. Ce n'est pas la responsabilité de comment l'appelle-t-on, de qui que ce soit. Parce que l'État aussi dit, bon, il a dépensé, il a construit, on va le casser, il va dormir où? Mais au même moment, l'eau l'envahit. On ne sait pas quoi faire.
D'accord. Jacques, est-ce que vous avez aussi l'impression qu'on ne peut pas trouver une solution définitive à ce problème?
Non, on peut si on veut. On peut si on veut, parce que quand vous prenez certains, par exemple, quartiers, il faut reconnaître que c'est des quartiers où on ne peut pas habiter. Mais ça, c'est la responsabilité de l'État d'arrêter ça. Vous ne pouvez pas laisser les gens aller construire et, moindre plus, vous voyez ce qui se passe. Il faut que l'État arrête. Parce que vous ne pouvez pas laisser ça continuer, perdurer. Et après, ça va créer encore des dégâts et ça va créer encore des morts inutiles. Il a dit tout à l'heure, quand on parle, par exemple, on prend la Lomé. On sait que dans certains quartiers aujourd'hui, il est difficile à l'État aujourd'hui de déloger les gens pour faire les canalisations. Mais l'État a l'obligation de le faire. Parce que la responsabilité de la vie des citoyens dépend de l'État. Parce que si l'État laisse faire et les gens meurent, demain on va crier sur qui? C'est sur, effectivement, la responsabilité de l'État. On a parlé des nouveaux quartiers, par exemple, aujourd'hui. Allez vers, par exemple, Alenka. Vous allez voir ce qui se passe là-bas. Mais ça fait pitié.
Ça, c'est l'enfer, hein?
Ça fait pitié à Alenka, ce quartier que je connais, que je maîtrise bien.
Alenka, c'est à quel niveau?
Quand vous dépassez
Toblekopé,
vous voyez l'antenne de quoi, Radio Lomé ou quoi là.
Oui,
Radio Lomé,
voilà.
Bien sûr.
La voie qui loin, le CMS Toblekopé.
Allez vers ce quartier, vous allez voir ce qui se passe. Les gens souffrent. Alors que ce quartier-là, si l'État avait pris la responsabilité, par exemple, de pouvoir créer, par exemple, les infrastructures, parlant de la route, de l'eau, de l'électricité, et les canalisations même, avant que les populations n'aillent, le problème-là ne se poserait pas. Vous allez, par exemple, vers Filpli, vous allez vers Zoussimer. Il y a d'autres quartiers au fond là-bas. Quand vous allez vers ces quartiers, mais si l'État avait pris, par exemple, la responsabilité de pouvoir, qu'on parle effectivement du traçage, on parle de la canalisation, avant que les gens ne puissent habiter, ce problème ne se poserait pas. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Le premier habitant dans ce quartier-là, c'est lui qui amène d'abord quoi? La route, parce qu'il trace avant d'aller chez lui. Tous ceux qui viendront maintenant, vous allez dans ce quartier pour habiter, ils vont déposer leur ciment chez lui avant de pouvoir continuer leur construction. Peut-être qu'il a eu la chance d'avoir un forage, peut-être que les gens vont puiser l'eau du forage dans sa maison là, pour aller construire. S'il a par exemple l'électricité, il est le seul qui partage l'électricité dans ce quartier.
Il devient la CET.
Voilà. Vous voyez?
La CET et la régie.
C'est pour vous dire quelque part que moi j'ai dit, si l'État veut, l'État peut. Mais si l'État laisse faire, mais nous allons assister à ce genre de choses. Prenez le cas de certaines écoles par exemple. Moi je suis souvent étonné qu'on ne prend pas la responsabilité par exemple au niveau de ces écoles. Allez aujourd'hui vers Agwe-Zongo. Il y a une école là-bas, mais ce n'est pas possible. Mais il y a des enfants qui continuent par fréquenter dans cet établissement. Où vous allez voir les enfants qui courtisent avec les bœufs, les chèvres, les moutons ensemble dans l'établissement. Et allez voir l'étendue d'eau dans cet établissement. Donc je crois que si on dit que non, que l'État ne peut pas, l'État peut. Parce que l'État aujourd'hui a la force de pouvoir arrêter certains dérives.
Définitivement.
D'accord. Mais l'État peut. Oui, l'État peut le faire.
Voilà, c'est l'avis de Jacques. Didier, on sait que l'État a sa responsabilité, mais nous aussi, en tant que citoyens, nous avons nos responsabilités.
Oui, évidemment. Mais nos responsabilités individuelles ne peuvent pas dissoudre la grande responsabilité de l'État. Vous savez, que veut le Togolais? Il faut poser la question par là. Que veut le Togolais? Le Togolais moyen, le Togolais, il cherche quoi? Il cherche un habitat pour se mettre à l'abri, pour se sécuriser, mettre ses enfants, sa progéniture. et pour éviter d'être là à payer le loyer tous les 5 du mois et que des fois même on vienne le menacer. Donc c'est l'origine du problème. Et si l'État connaît sa population et la philosophie du Togolais qui veut coûte que coûte habiter chez lui, pas d'habiter chez quelqu'un, on vient l'embêter chaque 5 du mois avec d'autres tracasseries dans les maisons de location. L'État, dès déjà à la base, qui aura compris la philosophie de sa population, aurait dû commencer à mettre en place des solutions qui répondent à ce besoin-là de la population.
Est-ce que ça veut dire que l'État ne comprend pas la philosophie, là, vraiment, de sa population?
Alors, pendant longtemps, l'État n'aurait pas compris cette philosophie. Parce que s'il avait compris cette philosophie du Togolais, il aurait commencé à prendre des dispositions dans ce sens. Parce que les logements sociaux dont on parle, depuis combien d'années seulement on en entend parler? Depuis combien d'années on en entend parler des logements sociaux qu'on doit mettre dans des zones que l'État doit promouvoir? Et aujourd'hui, à ce jour, il y a combien de logements construits à Lomé qui sont véritablement sociaux et qui, qu'un Togolais dans l'administration, un peu partout, un Togolais moyen pouvait aujourd'hui se payer le risque d'en avoir? Je ne crois pas qu'on ait véritablement aujourd'hui de logements sociaux qui permettent aujourd'hui aux Togolais qui travaillent même dans la fonction publique de pouvoir l'acquérir. Peut-être que je peux me tromper, mais je n'en vois pas encore. Et donc, à partir de ce moment, la population togolaise ou les Togolais, chacun cherche un moyen de s'offrir sa maison à lui. Et donc, à partir de ce moment-là, ce que Luriel disait, les constructions anarchiques et désordonnées, oui, mais sont au rendez-vous. Et pendant ce temps, l'État laisse faire. L'État laisse faire au lieu de trouver une solution qui empêche tout le monde d'aller construire n'importe où et n'importe comment. Il n'y a pas véritablement de réponse, de solution à ce besoin-là. Et chaque Togolais construit comme il veut, selon ses moyens et un peu partout. Et chacun veut être proche du centre-ville de Lomé. Et donc, même si on dit que c'est dans l'eau, dans les Ogbedi, tout ce qui est Ogbedi là, Atiégou Ogbedi, Kéké Ogbedi, les gens préfèrent.
Oui. Mais les Zongo, tiens.
Oui, mais en plus des Zongo, parce que j'étais en train de monter comme ça, tout le monde veut être proche du centre-ville. Parce que ça permet peut-être de diminuer les déplacements et tout ça. Chacun se met dans les zones inondables et l'État ne dit rien, absolument rien. Les logements sociaux, de ma mémoire de journaliste, c'est depuis 2012 au moins, on nous promet, mais aujourd'hui, je n'ai pas vu un projet réel que je peux te montrer. Même mon papa ici n'est plus finalement un logement social. C'est finalement un logement pour des gens plus huppés, plus nantis. Et donc, oui, les agents de l'administration pour qui on avait démarré ce projet-là continuent de construire dans Alenka, Dikamé. Moi, je suis allé une fois à Dikamé, mais les gens ont du courage. Dikamé, tout ce que tu cites là, les Belgiques, deux, les Basito, trois, les Pesito et tout ça dans les zones où c'est véritablement compliqué de vivre avec quand il va pleuvoir, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, mais les gens préfèrent être là, proche de Lomé. Et l'État ne dit rien, et l'État même peut-être, des fois, fait comme si les gens, même des fois, n'existent pas. Et donc, moi, ce qu'on peut, si on veut véritablement résoudre ce problème, peut-être on a pris beaucoup de retard sur la résolution, mais dans les années à venir, anticiper, c'est peut-être d'accélérer les projets de logements sociaux, comme on en a promis dernièrement à l'appel. Devant Diagoulé, là, j'oublie un peu le nom,
Boumé.
Et d'autres endroits où l'État construit vraiment des villes secondaires qui permettent de prendre le poids de Lomé et qui permettent justement aux Togolais de vivre. Si on veut laisser des personnes, même les Togolais même, aller commencer déjà par construire à Boumé, vous allez les voir, ils vont construire dans des zones où on avait déjà exploité le phosphate ou qui contiennent de l'eau, et des gens vont acheter parce que c'est proche de la route ou parce que ça permet de rejoindre facilement Lomé. Je crois que c'est de cela qu'il faut comprendre et commencer par trouver des solutions.
D'accord. Nous allons quitter le sujet, hein, puisque nous allons parler maintenant d'électricité, puisque nous savons que
c'est la même chose.
Quand on parle de l'eau, on parle de l'électricité, c'est justement la même chose. Nous savons que la ministre alors de l'énergie était devant la presse le samedi samedi dernier pour s'expliquer hein, sur les raisons, surtout alors des inondations, enfin des délestages ou des coupures intempestives alors de courant que nous constatons ces derniers temps. Et il y a 4 raisons qui ont été données. Et là, le ministre ou la ministre a insisté bien sûr alors sur le fait que il y a des rumeurs qui circulent que mais c'est l'endettement qui serait à la base alors de ces délestages, que l'endettement n'en est pour absolument rien. Et donc, Uriel, sur le sujet, vous avez titré hein, à la une de votre journal ce matin, crise énergétique, Mila Ziablé dépose les vraies raisons à l'endroit des médias. C'est ainsi, puisqu'il y a les raisons quand même qui ont été données par la ministre.
Il y a les raisons qui ont été données par la ministre. Vous voyez, nos titres sont tellement délicats. Lorsque tu observes, quand nous titrons sur un sujet, c'est que c'est un peu délicat. Nous avons appris à travers nos confrères que Mila Ziablé a organisé une conférence de presse. Nous n'y étions pas, mais nous avons pris soin de parcourir beaucoup d'articles des confrères. En les parcourant, nous avons constaté que Mme Ziablé a fourni des informations réelles hein, sur les sources, les causes du délestage que nous vivons actuellement. Parce que presque tous ceux qui y étaient parlent d'une même voix. Là, on s'est dit, donc, Madame le ministre a fourni les vraies informations à nos confrères qui étaient conviés à cette conférence. Elle a parlé des difficultés techniques, politiques, et elle a évoqué 4 raisons majeures qui pourraient justifier ces délestages que nous vivons actuellement. Et tu as bien précisé qu'elle dit que l'endettement n'en est pour rien. Mais sauf que nous aurions souhaité que pour un problème majeur de ce niveau, Madame le ministre aurait dû organiser une conférence plus large que ça. Je crois aujourd'hui, quand tu échanges avec beaucoup d'organes de presse, il n'y était pas. Je ne sais pas si Togo Breaking News était convié, mais...
Effectivement, j'ai vu Didier sur les images.
Voilà.
Il était cravaté même.
Ouais, voilà, d'accord. Mais c'était tellement sélectif que pour un problème du genre, le service communication du ministère de l'énergie et des mines aurait pu mieux faire. Ce n'est pas tellement commode qu'on s'amuse avec quelques poignées d'organes à informer là-dessus. Mais nous avons pris sur nous la responsabilité de parcourir beaucoup d'articles et c'est en cela que nous nous sommes rendus compte puisqu'elle représente le gouvernement, elle est l'émissaire du gouvernement en cette conférence de presse. Nous nous sommes dit que là, elle a déposé la vraie information à l'endroit des journalistes pour exploitation. Donc, heureusement qu'il y a quelqu'un ici qui avait vraiment participé à cette conférence. Il va peut-être essayer de nous expliquer et ce qui l'a convaincu en tenant compte des propos de Mme Mila Ziablé.
D'accord, justement, on va lui donner la parole. Didier, c'est vrai, je vous ai vu alors sur les images à la télévision nationale. Et déjà, quand vous y étiez concrètement, quelles sont les raisons évoquées par la ministre hein, pour par rapport même d'ailleurs à cette question de délestage? Et il semble même d'ailleurs qu'il y a des dispositions qui sont prises hein, pour que, du moins, ça, on en arrive, enfin, pour que le délestage ne continue pas.
Bon, alors, j'ai véritablement participé à cette conférence de presse parce que déjà, le doyen Jacques Diakouti m'avait recommandé quelque part où j'étais samedi. Et donc, en revenant de là, j'ai été obligé de participer à la conférence de presse de Madame le ministre en charge de l'énergie. Donc, sur le délestage, elle a expliqué clairement qu'il y a 4 raisons, comme tout le monde le dit. Elle a dit d'abord qu'il y a des travaux en cours actuellement au niveau du Ghana et qui ne finissent pas encore et donc qui font que l'exportation de l'énergie vers le Togo pose véritablement des soucis et qu'il y a également des travaux au niveau du Nigeria sur les installations du gaz qui permettent d'alimenter les centrales disponibles ici au niveau du Togo donc pour pouvoir produire suffisamment de l'électricité, deuxième raison. Et troisième raison, c'est que politiquement, parce qu'il y a également des insuffisances, puisque les travaux sur les installations du gaz au niveau du Nigeria ont fait qu'au niveau du Nigeria, il n'y a pas suffisamment donc d'énergie qui est produite là-bas également. Et donc, quatrième raison maintenant, le Nigeria parce que il y a sous-production, a décidé de ne plus exporter de l'électricité vers le Bénin, le Togo et le Ghana. Donc, toutes ces raisons, Madame Mila Asiabe les a évoquées et donc elle a expliqué que aujourd'hui, si le Togo arrive à tourner un peu, c'est parce que il y a un peu, on a trouvé un peu de moyens pour permettre à Contour Global et à Kekeli et un peu la centrale à Meawa.
Kekeli,
quoi.
Kekeli.
Oui, Kekeli, justement. Elle a expliqué Kekeli centrale, Kekeli efficient Meawa, de continuer à produire ce qui est distribué actuellement. C'est pour ça qu'il n'y en a pas suffisamment. Donc de continuer à produire que l'électricité distribuée aujourd'hui au Togo, c'est une production de ces deux centrales-là principalement qui permettent aujourd'hui à la CET de tourner. Donc à part ça, elle a juste dit qu'il y a des mesures. Mais j'étais à la conférence de presse, j'avais des questions à poser, mais la ministre n'avait pas assez de temps à passer avec nous. Voilà. Donc il y a eu des questions, il y a eu deux ou trois séries de trois questions, mais il y avait tellement de questions dans la salle, mais elle était prise, elle devrait partir quelque part. Donc ils ont promis qu'il y aura d'autres conférences pour expliquer mieux, parce qu'elle a dit qu'il y a des mesures, le gouvernement prend des dispositions et tout ça. Moi, je voulais poser la question, savoir quelles étaient les dispositions et les mesures pour qu'on puisse bien communiquer. Mais parmi les mesures, c'est juste qu'on nous a dit, le gouvernement a décidé de trouver des moyens pour qu'il y ait suffisamment du gaz, pour que les centrales qui en ont besoin pour produire de l'électricité puissent produire. Donc, au-delà de ça, l'autre solution que la ministre a avancée, c'est d'optimiser la consommation. L'optimisation de la consommation, c'est le document que vous avez vu circuler tous il y a quelques temps. C'est le document de la CET portant rationnement. On a divisé le pays en trois zones et des zones avec des quartiers rassemblés ici et là. Donc, on déleste à tour de rôle à des quartiers, à des zones. Donc, elle a expliqué qu'il arrive des jours où on ne délaisse pas, on programme, mais on ne délaisse pas parce qu'il y a eu suffisamment de production d'électricité qui permettent quand même de tenir, mais qu'il y a des jours, justement, on tient compte de ce plan de rationnement qu'on coupe quand même dans des zones et tout ça. Donc, grosso modo, c'est ce que la ministre a expliqué, sans pour autant détailler véritablement les mesures et les dispositions que le gouvernement prend aujourd'hui pour que nous, médias, nous puissions vous communiquer. On connaît les causes de problèmes et vous avez dit qu'elle a...
On suppose le connaître.
C'est ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle nous a dit. C'est ce qu'elle nous a dit, mais parmi les solutions, c'est les deux que moi j'ai retenues, c'est que le gouvernement va prendre les mesures qui aient suffisamment de gaz pour produire et en attendant, on va subir avec le rationnement, le plan de rationnement qui est communiqué depuis quelques jours sur des antennes ici, on va couper dans telle zone pendant qu'il y a de l'électricité dans d'autres zones jusqu'à ce que la solution ne s'améliore. Peut-être qu'avant qu'on ne trouve suffisamment du gaz, peut-être qu'il y aura un léger mieux. Le gouvernement va peut-être négocier avec le Nigeria, donnez-nous un peu de votre électricité, ou le Ghana va finir les travaux, ou que les travaux sur les installations du gaz vont finir plus tôt que prévu et qu'on aura un léger mieux. Voilà, elle a également dit que contrairement au délestage que nous avons subi en 2006, où le Togo ne produisait que 10% de sa consommation en électricité, aujourd'hui le Togo produit jusqu'à à peu près 60%. 60% de sa consommation en électricité, et que le reste c'est autour de 40%, et qu'il y a des efforts qui ont été faits, mais qu'on ne peut pas laisser ces sources d'énergie qu'on a aujourd'hui pour se donner seulement aux énergies renouvelables, notamment le solaire, parce qu'elle a dit quand il va avoir du nuage, quand la nuit va tomber, on n'aura pas, on va toujours se remettre et tout ça. Elle a expliqué un certain nombre de choses.
D'accord.
Merci pour que nous venions expliquer à la population.
Merci pour les explications, Didier. Ça fait plaisir de vous écouter. Jacques, c'est vrai, nous avons écouté Didier. Didier n'a que rapporté ce que la ministre Asiablé a dit le samedi dernier. Alors, est-ce que finalement, avec ces raisons, vous êtes convaincu?
Bon, je serais convaincu si j'ai l'électricité.
Je n'ai tout pas à fait, comme si tout citoyen.
Ouais, justement, je serais convaincu si j'ai l'électricité. Et si demain on m'annonce que, par exemple, le délaissage, là, c'est derrière moi. Donc, j'ai écouté un peu le compte-rendu de Didier. Il faut reconnaître, il faut que le gouvernement puisse prendre également les mesures fortes pour assister la population que nous sommes. Parce qu'on ne peut pas imaginer, Pascal, qu'on coupe par exemple l'électricité tout au long d'une journée et que les factures qu'on payait avant reviennent encore aux mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun changement, quoi. Des fois, même ça augmente, les factures augmentent par rapport à la consommation. Oui. Donc, il faudrait aujourd'hui que le gouvernement prenne des mesures pour accompagner effectivement cette population-là, en diminuant le prix effectivement de l'électricité, pour soutenir effectivement les foyers un peu dans ces conditions, quoi. Et l'autre aspect, par rapport à l'une mesure peut-être qui va prendre du temps, il faut que le gouvernement pense à créer une centrale nucléaire. Parce que le Burkina l'a fait. Le Burkina est en train de le faire. Bon, quand on parle de centrale nucléaire aujourd'hui, dans les oreilles des Européens, des Américains, on pense que c'est pour fabriquer peut-être autre chose. Mais, des bombes. Mais il faut quand même que l'État aille à ça. Si le Burkina est en train de le faire, le Togo également peut le faire. Et peut-être très bientôt, le Niger et le Mali également. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut diversifier effectivement ces sources-là pour avoir effectivement l'électricité. Didier a dit tout à l'heure qu'il faut prier pour que le problème qui se passe au Ghana qu'il puisse vite réparer et aller demander encore au Nigeria. Vous voyez, c'est des solutions qui ne sont pas des solutions pérennes. C'est-à-dire que c'est des solutions éphémères. On se dit, bon, aujourd'hui, on a ce qu'on a aujourd'hui. Demain, on va encore voir ce que demain va donner. Mais si on vit comme ça, on ne peut pas avancer. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut vraiment trouver une solution définitive. Et l'autre aspect, il faut reconnaître que ceux qui ont effectivement conduit le chef de l'État à créer effectivement contre Gobral et Kekeli ont induit le président de la République en erreur.
Et pourquoi ?
Mais aujourd'hui, tout à l'heure, Didier faisait le rapport en disant qu'il n'y a pas... Il n'y a pas assez de gaz.
C'est pourquoi je demandais
oui, c'est ce qu'il a
si
dit.
Ça fonctionne.
Il dit qu'il n'y a pas assez de gaz pour pouvoir faire fonctionner Kontou Gobal et Kikeli. Mais dans la conception du projet, les gens savaient que pour faire tourner par exemple la centrale Kikeli et au Kontou Gobal, on devait avoir besoin du gaz. Et nous savons que le Togo, par exemple, ne produit pas du gaz. Donc pour avoir ce gaz-là, il faut l'exporter. Et ça va coûter l'importer et ça va coûter cher. Donc je crois que ceux qui ont amené ce projet dans notre pays et le soumettre au chef de l'État et le chef de l'État a avalisé, on a par exemple installé cette centrale, aujourd'hui ça nous crée problème. Aujourd'hui on peut me dire que bon, c'est grâce à cette centrale que on a un peu, je crois que la dame a parlé de 40% ou 60%.
Oui, tout à fait.
Voilà. Mais quand vous comparez 40% à 60% pour la population, vous voyez que c'est quand même peu. Donc je crois qu'il faut mener plus de réflexion. Moi je serai par exemple à la place du chef de l'État ou bien du gouvernement, je vais penser à créer effectivement une centrale nucléaire pour aider effectivement, pour soulager effectivement les populations en matière d'électricité. Aujourd'hui quand on nous parle par exemple ce qu'on a installé par exemple à Blita, les centres de photovoltaïque pour aider effectivement la population, nous voyons que ça aussi ça n'a pas tellement un rendement visible comme ça au sein de nos populations. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut plutôt mener une réflexion poussée et osée. Donc je crois que ce n'est pas trop exagéré de demander aujourd'hui à l'État d'aller aux États généraux de l'énergie dans notre pays et inviter une fois encore la société pour m'arrêter. Vous savez, Pascal, depuis un certain temps, lorsque, par exemple, on coupe l'électricité, ça ne fait pas quelques secondes, on remet. Quelques secondes, on coupe. Et ça crée vraiment des problèmes dans les quartiers. Ça crée vraiment des problèmes dans les ménages.
Moi, je voulais, nos appareils.
Voilà, je voulais inviter la société. Si vous voulez, par exemple, couper, coupez. Il faut couper. Vous laissez, peut-être que ça va faire une heure, deux heures, trois heures de temps avant de ramener l'électricité. Mais quand vous coupez une seconde, vous ramenez encore l'électricité une seconde, vous recoupez encore l'électricité une seconde, vraiment, ça crée trop de problèmes dans les ménages.
D'accord, merci beaucoup, Jacques. Oui, Uriel ?
Non, je vais commencer plutôt par la chute de Jacques. Je pense que la CT même n'a pas la maîtrise de ce que vous demandez. Quand on délaisse et un instant après, on ramène. Non, la CT n'a même pas la maîtrise de cela parce qu'il faut chercher à obtenir.
Mais qui délaisse et qui ramène ?
Non, il faut me comprendre. Mais qui délaisse, qui ramène, c'est la cité. Si la cité avait cette maîtrise, on n'aurait pas, on ne subirait pas ces phénomènes de délaisser, ramener en une seconde, griller les appareils. Je pense que la cité n'a pas la maîtrise de nous épargner de cela. Bon, si elle a la maîtrise, à partir de cet instant, on ne vivra pas ça. C'est simple que ça, ou bien. Maintenant, Jacques, toi, tu as la chance d'utiliser le compteur mécanique pour te plaindre des factures. Toi, tu peux consommer, après on t'apporte la facture, tu paies. Mais c'est, il faut t'estimer heureux. Nous, si on ne charge pas, on ne consomme pas. Donc, toi, tu dois t'estimer heureux et te dire que ça, c'est mon pas. Oui, il faut charger avant de consommer. Certainement que chez toi, c'est pareil.
Oui, tout à fait.
Donc, il faut t'estimer heureux. Ce qui est problème à notre niveau, à ton niveau, à son niveau, et que vous ignorez, c'est le chargement du Wi-Fi. Quand vous rechargez votre fibre optique pour le mois et vous n'avez pas le courant durant 5 heures dans la journée, ça veut dire que vous n'avez pas la fibre optique.
Tout à fait.
Et durant 30 jours, vous ne consommez qu'à peine 12 ou 13 jours. Mais vous avez payé. Vous voyez les conséquences du délaissage. Ça veut dire que lorsqu'on place, là je vais m'atteler là-dessus, lorsque le président de la République met sa confiance, place la confiance en quelqu'un, on lui dit, toi, reste ici, il faut servir le peuple. Mais il faut que les gens fassent usage de leurs compétences. De grâce. Parce que l'énergie électrique, je répète ce que j'avais dit la dernière fois, c'est un secteur fondamental pour la vie. Les gens peuvent mourir à l'hôpital parce qu'on a coupé le courant. Tu es sous oxygène et on coupe le courant. Ça, on est en train d'opérer quelqu'un, on coupe le courant. Vous voyez ? Ça, il faut que les gens fassent, les gens démontrent qu'ils méritent la confiance qu'on leur fait. Ici, c'est très délicat. Il n'y a pas que la cité. Il y a beaucoup de secteurs. Vous pouvez citer. Hein. On n'est pas ici pour citer en faveur de qui ou en faveur de... Non, non, non. Il faut que les gens fassent preuve des compétences pour lesquelles on les a placés ici ou là, pour qu'on ne vive pas. Ça se prévient, non? Ce n'est pas parce que le Ghana est en travaux, le Nigeria est en ceci, le Togo pouvait avoir de l'énergie en attente. Il n'y a pas un secteur pour lequel on dit non, bon, ça, nous dépendons à 100% de tel ou de tel. Il faut toujours prévoir. Il y a des imprévus. Si on coupe le courant dans un hôpital, il n'y a pas un groupe de relais. Les gens vont mourir. On a vu l'année passée, surpassée au Bénin, ce qui s'est passé. Donc, il faut toujours prévoir. Quand on est compétent, performant, prêt à servir le pays, il faut qu'on le démontre. Aujourd'hui, tout le monde saluerait ceux qui sont à la tête de l'énergie des mines, si malgré tout ce qu'on nous énumère, qu'il y a travaux ici, qu'il y a quoi par là, si malgré tout ça, on avait l'énergie électrique en permanence, tout le monde saluerait la façon de manager de ces responsables-là. Ça ne nous sert à rien quand vous énumérez que c'est telle cause, telle raison. En réalité, et rien ne nous prouve que c'est vrai. Nous ne sommes pas du domaine. Donc c'est tellement délicat qu'il faut quand même garder conscience que le secteur à la tête duquel on m'a placé, c'est un secteur fondamental pour la vie et je dois tout faire pour maintenir le fonctionnement de ce secteur-là 24 heures.
Mais Uriel, sur ce point, s'il arrive que la personne qu'on a placée, on a nommé quelque part pour faire le travail, et s'il n'arrive pas à le faire, la personne qui l'a nommé normalement quand même devait le faire démettre, non, de ses fonctions.
Est-ce que c'est une question à poser? Non, ça va de soi. Ça va de soi. Je suis sûr que si tu n'assures pas l'émission que tu animes ici, le DG de Canal FM ne va pas te laisser. C'est parce que tu assures, tu vas au-delà même des résultats qu'il escomptait, que tu continues. Donc, ça va de soi.
D'accord. Merci Pascal, beaucoup. Oui, Jacques. Oui, moi, je voulais ajouter une chose. Je voulais sincèrement inviter la TDE. Peut-être que mon ami Uriel dirait que je suis heureux d'avoir encore un compteur TDE à la maison. Mais il faudrait que la TDE travaille. Parce qu'on ne peut pas imaginer que la CTE coupe l'électricité et que la TDE n'arrive pas à fournir de l'eau aux populations. Il faut avoir quand même les groupes. Non, il faut avoir les groupes électrogènes. Ah, voilà. Oui, la CTE, je dis la CTE. La TDE devait être en mesure d'avoir les groupes électrogènes. Lorsque, par exemple, la société coupe, que les groupes électrogènes ne continuent pas à fonctionner, parce qu'on ne peut pas couper les deux. Et l'électricité et l'eau. Des fois, il y a des quartiers ou des populations passent 3 jours sans avoir ni l'électricité, ni l'eau. Parce que vous savez également que dans certains quartiers, les gens ont des forages. Lorsque, par exemple, il n'y a pas l'énergie, vous ne pouvez pas également avoir de l'eau. Donc, vous voyez, donc je crois que à tous les niveaux, j'ai dit qu'il faudrait que également la TDE fasse vraiment un travail. Elie disait tout à l'heure, quelque chose tout à l'heure. Vous savez, vous prenez par exemple notre pays. Pour aller par exemple à Dapaon, c'est la seule voie, c'est-à-dire que la nationale numéro 1, c'est la seule voie qui mène à Dapaon. Il faudrait que le gouvernement mène une réflexion aujourd'hui. Si par exemple, on ne souhaite jamais un problème dans un pays, on ne le souhaite pas. Mais si ça arrivait, que par exemple, on ne peut plus passer par Kara, si vous quittez Lomé pour aller à Dapaon, vous ne pouvez plus passer par Kara pour aller à Dapaon, vous allez passer où?
Non, là-bas, il y a une voie.
Où il y a une voie. Mmh. Donc, prenez par exemple le cas de Thiévier.
De Thiévier, voilà.
Arrivez au niveau, par exemple, de Thiévier, mmh. Vous ne pouvez plus, vous êtes bloqué, vous ne pourrez plus aller à Dapaon. Donc, je crois que c'est le moment de mener des réflexions.
Il faut passer chez moi.
Hein? Il faut passer des réflexions. Même si on passe par Table de Goukouvé, on sera obligé d'aller passer par le Bénin. Passer par le Bénin, aller passer par Djougou.
Mais là aussi, Djougou, il faut rentrer par
Papagouda avant d'aller à Dapaon.
Il faut quand même. Si chez moi comme ça, vous saurez qu'il faut une vraie route pour entrer à Épé et couver 4-5 km.
Alors, nous allons quitter le sujet. On termine avec ce sujet alors de ce mouvement d'humeur hein, des enseignants chercheurs à l'université de Lomé. Nous savons qu'il y a de cela 2 semaines que nous constatons ces mouvements à l'université de Lomé, et c'est vrai que il y a des revendications hein, que les enseignants chercheurs ont formulées. Ces revendications, il y a le reliquat alors des accords de 2021 qu'ils exigent, il y a aussi l'autonomie de l'université, il y a les 5 et 10% alors des décrets présidentiels sur la cherté de la vie hein, y compris les enseignants, le personnel administratif et technique alors des UPET. C'est vrai, sur ce point, il y a les enseignants-chercheurs hein, qui disent que pour ce qui concerne surtout ce point-là, les 5% et les 5 et 10% décrétés par le chef de l'État a été accordé ou bien s'accordent alors aux magistrats, aux juges, mais chez eux, c'est qu'ils sont laissés sur le carreau et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils pensent même d'ailleurs qu'il y a deux poids, deux mesures. Alors, là, on comprend bien quand même les enseignants sur leurs revendications.
Je pense que le gouvernement doit prendre ce problème-là au sérieux et essayer de trouver des mesures ou ne serait-ce qu'ouvrir un cadre de discussion avec les enseignants pour véritablement qu'on en finisse avec cela et qu'on dise que dans les universités publiques du Togo, les professeurs, moi j'ai vu des doyens, qui font également dans les débrayages, qui sont dans les meetings et sittings pour demander au gouvernement de régler ce problème. Et pour toute réponse, vous avez déjà la réponse à leur revendication, au point où ces enseignants chercheurs en appellent directement au chef de l'État pour régler ce problème. Ils ont même demandé la démission donc de leur collègue ministre en charge de leur secteur. Je crois que si une promesse du chef de l'État faite à tous les agents de l'administration publique, qui est cette promesse là qui est exécutée à des endroits et que à l'université ce n'est pas exécuté, donc je crois qu'il y a justement, comme tu as dit, un deux poids deux mesures, et il y a véritablement un souci en cela. Une fois que c'est le chef de l'État qui a promis de faire quelque chose à des agents publics et qu'à des endroits on l'applique et que dans les deux universités publiques on en soit encore à des discussions, à des menaces, à des contre-menaces, à des grèves, à des débrayages, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut véritablement pour les universités publiques. Si on veut vraiment développer la recherche dans le pays et que ce secteur apporte ou draine le développement du pays, parce qu'on ne peut pas développer le pays sans recherche, sans réflexion, également sans les universités, il faut véritablement qu'on règle rapidement ce problème-là et qu'on passe à autre chose, qu'on dise que des enseignants, chercheurs, des doyens comme ça, des professeurs sont ceux qui font grève et qu'un autre professeur, voilà, répond pas à la force, ou point on a dit qu'on va même emmener la police et tout ça, je crois que ça ne fait pas une bonne publicité et pour le gouvernement et pour le chef de l'État, l'image et l'honneur du chef d'État, et pour les universités publiques même, c'est pas bien à entendre ce qui se passe. Il faut véritablement qu'on règle ce problème, qu'un ministre ait pu dire à ses collègues que si vous n'êtes pas content, allez voir le chef de l'État. Je pense que c'est fuir également sa responsabilité, ce n'est pas bien du tout. Il faut que le ministre prenne réellement ce problème à bras le corps pour aller voir le chef de l'État de ce qui se passe et qu'on, avec, bon, il n'y a plus de premier ministre, on attend le président du conseil, qu'on règle rapidement cette histoire-là et qu'on passe à autre chose.
D'accord.
Ce sera tout à l'honneur du gouvernement lui-même et tout à l'honneur de l'image du chef de l'État qui a donné une parole qu'il exécute.
Voilà. Alors, c'est un moment de débrayage, ce que je voudrais dire. Alors, Uriel, ça ne fait pas quand même du bien à l'université.
Non, moi, je n'ai pas compris une chose très rapidement. Et ils ont le même statut, ils jouissent des mêmes avantages et intérêts avec ceux de l'université de Kara, si je ne me trompe pas. Ce sont les deux universités publiques actuellement.
Public du Togo,
mais
bien sûr.
Ceux de Kara n'étaient pas en débrayage. Il y a quoi? Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, c'est que le problème existait avant le départ du professeur ministre-président Kokoroko. Mais pourquoi il n'y a pas eu le débrayage? Et surtout, pourquoi ils n'ont pas demandé le départ de leur ministre Iwateba, qui était ministre quand le président Kokoroko était président à l'université de Lomé? Vous voyez? Moi, je ne trouve même pas que c'est un problème lorsque le ministre leur dit s'ils ne sont pas satisfaits, ils n'ont qu'à aller voir. Puisque c'est le ministre qui est leur représentant auprès du chef de l'État. Donc, peut-être que le ministre même a des obstacles à résoudre ce problème. Donc, ce n'est pas... Des fois, il y a des arrière-plans que nous ne maîtrisons pas. Sinon, ce que je viens d'énumérer, il faut beaucoup réfléchir là-dessus. Pourquoi ces aspects-là ne répondent pas et on demande au ministre Wateba de partir? À quoi il est concerné?
Oui, Jacques, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on prend le président Adama Kouda, professeur Adama Kouda, il est en train quand même d'ouvrir ses portes pour que, du moins, ce qu'il y ait de négociations, pour qu'il y ait du dialogue autour de cette question, mais ça persiste.
Non, je crois qu'il faut quand même reconnaître que le professeur Adama a quand même permis à ses professeurs de manifester. Il n'a pas tout de suite gazé.
Effectivement, c'est voilà. Ça aussi le bien.
Ça, il faut quand même lui tirer chapeau par rapport à ça. Mais les revendications, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, a dit que quand on parle, quand Uriel dit que ceux de Kara ne manifestent pas, que c'est ceux de Lomé, vous savez, c'est une chaîne. Si aujourd'hui ça marche pour Lomé, mais ce qui est sûr, Kara aussi va en bénéficier. Donc ce n'est pas parce que Kara n'est pas en ébullition que Lomé est en ébullition.
Un élément d'appréciation, ça permettra de comprendre. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des enseignants qui sont à l'université de Lomé interviennent à l'université.
J'ai fait l'université de Kara. Aujourd'hui, n'oubliez pas que la semaine dernière, nous étions là-bas pour signer un contrat de partenariat avec l'université de Kara. Ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Les choses ont changé. Les permanents, ils sont majoritaires que les solliciter pour intervenir temporairement et repartir. Aujourd'hui, l'université de Kara ne souffre pas d'enseignants. Ils sont là, d'ailleurs, même c'est chaque année, c'est à l'université de Kara qu'on a plus de réussite au niveau du CAMES.
Nous allons revenir sur le sujet, puisque notre temps est déjà avancé. Nous allons revenir sur le sujet déjà demain ou après-demain, avec surtout l'un de ces enseignants ici en studio. Je pense quand même que tout sera plus clarifié, et même pas pourquoi, avec le président alors de l'université de Lomé. Ça nous fera tellement plaisir. Nous sommes à la fin alors de ce débat, mais nous allons écouter aussi nos auditeurs qui vont se prononcer aussi sur tous les sujets débattus ici au Club de la Presse. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Age 2024, le moment tant attendu est arrivé. Avec la carte prépayée Visa de IB Bank Togo, chaque étape de votre pèlerinage devient plus simple que jamais. Chargez votre carte avec le montant souhaité jusqu'à 5 millions de francs CFA et profitez des retraits, des paiements et même des achats en ligne, où que vous soyez à la Mecque. En plus, bénéficiez d'une assistance gratuite H24 et 7 jours sur 7. Achetez votre carte prépayée dès aujourd'hui dans votre agence IB Bank Togo la plus proche et voyagez en toute tranquillité. Avec IB Bank Togo, profitez de votre pèlerinage à la Mecque. Contactez le plus 228 22 23 55 44 ou le plus 228 90 01 73 84.
IB Bank, partenaire de votre succès.
Chez Sounou Bank, vous êtes unique. Désormais, avec l'application mobile My Sounou Bank, gérez vos finances sans stress depuis chez vous. Transférez instantanément vos fonds. Retirez de l'argent sans carte bancaire au GAB. Souscrivez à des polices d'assurance 100% digitales et bien plus encore. Téléchargez dès maintenant l'application sur Play Store ou Apple Store et suivez les étapes. My Sounou Bank, la banque 100% digitale. Et Pesenta. Pour plus d'infos, contactez le 84 44 ou rendez-vous en agence. Sounou Bank a le bon profil pour vous accompagner digitalement. Sounou Bank, avec vous à chaque étape.
Fine, légère, équilibrée et rafraîchissante, Warsteiner, une bière internationale, prestigieuse allemande, brassée depuis 1753 par la 9e génération de la même famille, est enfin au Togo, sous licence par la Société Nouvelle de Boissons SNB. Warsteiner, bière blonde 100% malt, brassée selon la loi de la pureté allemande. Warsteiner, la vie dorée, Sikavi, format 50 centilitres à 650 francs CFA. Warsteiner, la vie dorée.
Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. GoAfrica Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com.
Quelle est la destination de vos rêves? Londres, Lagos, Miami, Zanzibar, Cape Town ou New York? Où que vous souhaitez aller, Wakana ou à celui qu'il vous faut. Offre de voyage imbattable avec seulement un acompte de 10% et payez de petites sommes en plusieurs versements pratiques. Réservez dès maintenant sur www.wakanao.com. Téléchargez l'application Wakanao pour des offres encore moins chères. Ou rendez-vous dans notre centre de voyage à la galerie Tuntuli, boulevard du 13 janvier, 07 BP 12760, Lomé, Togo.
Wakanao, let's go. Wakanao, allons-y.
Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce lundi et maintenant vous comprenez que nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114 91 36 ou 315.
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
On va bien.
Votre nom? Oui, ça va. Votre
c'est
nom?
Monsieur IB.
Monsieur IB.
Oui, il y a pas de journaux.
Ah, d'accord, allez-y.
Bon, en fait, vous voyez que tous les sujets que vous avez quand même soulevés, tout est important. Là, on se pose la question, le pays évolue dans quoi au juste? Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et j'aimerais dire à monsieur Doblisson, qui a fait la comparaison d'inondation de Dubaï et de Lomé. En fait, quand il y a eu inondation à Dubaï, après quelques heures, si on vous dit que l'eau est restée, si vous n'allez pas croire, pourtant à Lomé, si vous allez voir des zones inondables, ça reste pendant des mois. Les gens ne peuvent pas y passer. Bon, on ne peut pas comparer des choses comme ça. C'était ma contribution quand même. Merci.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur IB, pour votre contribution au débat 22 21 33 114 91 36-63-75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. Allô? Allô, bonjour.
Oui,
Bonjour, monsieur.
Oui, comment vous allez?
Je vais bien.
Votre nom, c'est?
C'est monsieur Yélé.
Monsieur Yélé.
Oui.
Vous nous appelez de quel quartier?
À propos des inondations, là.
D'accord, allez-y.
Moi, je voulais intervenir par rapport au groupe qui pompe l'eau au niveau de Lyon, là. Comment eux-mêmes, ils voient l'eau est beaucoup, là. Le seul groupe, là, ne veut rien. De deux maintenant, quand ils passent là-bas, fumer, qu'ils sortent même là, ça renvoie même les gens du quartier. Il n'y a pas le suivi, il n'y a pas l'entretien de l'engin. Ça, là, comment ça peut travailler? Comment ça peut travailler? Je ne sais pas, vous avez passé une fois là-bas quand le groupe a été marché. Hein. Le fumé qui sort là-bas, mais ce n'est pas la peine. Hein? Et le truc là, actuellement, ça ne pompe pas. Hein. C'est là-bas, moi j'ai passé là-bas, ça ne fait pas une heure du temps. Je ne sais pas, bon, si c'est après moi qu'ils ont démarré. Ça là, comme ça, s'il y a la pluie, une grande pluie aujourd'hui, vous allez dire que l'eau ne va pas envahir les gens encore. Ça là, il faut qu'ils voient ça. Au moins deux groupes là, ça pourrait marcher. Sinon, seul là-bas qui fume comme quoi, même là, je ne sais pas. Ça ne peut pas aller.
D'accord.
Ils n'ont qu'à revoir ça. C'est comme ils s'en foutent de la population, quoi.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur Yélé. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse. Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, Basile.
Comment vous allez? Vous connaissez ma voix toutes les fois.
Justement, c'est...
Je vous remercie beaucoup. Je salue tout le plateau. Vous avez tout identifié. Moi, j'ai des problèmes avec vos confrères chaque fois. Ceux qui défendent l'indépendable là. C'est pas bien. Si on le fait comme ça, jusqu'à 100 ans, on va rester à cause de ça. Il faut dire aux dirigeants que ce que vous faites, que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Et pour cela, il ne faut pas chercher à rester indéfiniment. C'est tout ce qu'il faut leur dire. Moi, je ne dis pas que je ne veux pas être leur partisan, leur partisan, leur sympathisant. Moi, je ne veux pas être ça.
Basile, vous avez l'opportunité maintenant, il faut le dire.
Mais je leur dis que ce n'est pas bien.
Non, mais...
Au lieu de penser à ça, ils nous agressent avec une constitution qui n'en ont même pas droit. Je te dis quiconque. Les professeurs pantrologues là qui viennent là, que si quelqu'un me dit, là où cette conscience de ce qu'elle me dit que les députés peuvent chanter notre constitution, il n'y en a pas.
Oui, décidément, Basile, nous n'avons pas parlé de la constitution aujourd'hui. Nous avons parlé de l'inondation et nous avons parlé de l'électricité et aussi également de la grève au niveau de l'université de Lomé. Nous n'avons parler alors de rien comme constitution aujourd'hui. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, monsieur Gado.
Bonjour.
Ou c'est monsieur Nyamavo plutôt?
Oui, c'est Nyamavo, monsieur.
Oui, Nyamavo, allez-y.
J'ai entendu quelqu'un dire que les procès de Kara sont en nombre et il n'y a pas de démission comme Lomé. Je ne sais pas si les professeurs de l'université de Lomé sont des nationaux et que les professeurs de l'université de Kara sont sur autre planète ou comment.
Non, le
concept. Donc, pour juger ce président, on ne peut pas faire ces analyses de ségrégation là comme ça.
Non, Nyamavo.
Excusez-moi.
Nyamavo.
Concernant l'inondation.
Oui, Nyamavo. Oui. Le confrère posait plutôt une question.
Concernant l'inondation, s'il vous plaît.
Oui, allez-y.
Oui, je vous avais dit une fois aussi que si tous les quartiers ont des caniveaux, on va assister à des scènes de jet d'eau sur les grandes routes. Les grandes routes, le long des grandes routes, ce sont des égouts on doit avoir pour joindre ça au grand bassin. Il y a le tuyau là-bas. On a beaucoup de travail à faire au Togo ici. Mais si les gens se lamentent, plus de 95% des Togolais ont voté les inondations. Je suis désolé. Merci.
D'accord. Merci beaucoup, Nyamavo. 22 21 33 114 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse de ce lundi. 22 21 33 114. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, mon directeur.
Papa Sibiti, je vais bien, et vous?
Papa, bonjour tout le plateau.
Oui, bonjour.
Vous voyez, premièrement, l'inondation. L'inondation, ce n'est pas d'aujourd'hui. Qu'est-ce que les responsables, le ministre des TP, en adaptant de Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas y avoir des quartiers, par exemple, il n'y a pas beaucoup de gens pour qui le solde et se voit chez nous. Est-ce que vous arrivez à Manou, le descend, les caniveaux, les collecteurs qui sont souterrains, comment faire s'ils sont bouchés? Ils n'ont qu'à nous faire ça par étapes. Cette année, on prend ici. L'année prochaine, parce que l'université dont vous avez parlé, vous savez, c'est pas bon que ces gens-là. Et je ne suis pas pour le ministre. C'est un ministre, professeur d'université. Est-ce qu'il peut venir dire à ses collègues là-bas, je fais diplôme, que si vous n'êtes pas content, allez voir le président. Je ne suis pas, je ne peux pas, je ne pense pas qu'il puisse le dire. Il n'est pas avec les experts de sa foi. Il ne peut pas le dire, moi je le connais. Troisièmement, l'électricité. Il faut faire tout que notre ministre-là et ses directeurs qu'on sorte de ce problème-là. Merci beaucoup.
Merci. Bonne journée. Merci beaucoup, Papa Sibiti, pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô? Allô, madame Issy.
Bonjour.
Bonjour. Oui, madame Issy.
Et moi, j'ai ri de tous les problèmes existentiels qu'on a, quoi. Oui, j'en ris plutôt parce que moi, je sais qu'on a dit, parce qu'on est des humains, surtout l'Africain, le Togolais, on a dit un mandat de 5 ans, quoi. Tu passes l'année et le pays se développe, quoi. Mais attends, oh, vraiment, mais attendez, les inondations, il n'y a pas le droit, le Togo n'a pas le droit de vivre ce qu'on vit maintenant. Après 64 ans d'indépendance, 61 ans de la gouvernance du même régime, il n'y a pas le droit à ça. Ça peut se passer partout dans le monde, on s'en fout. Ici, là, on doit vivre comme dans le Dorado. Comment se fait-il qu'il y a tout ça, là? Les enseignants sont clochardisés, mais c'est les mêmes qui fraudent les élections. Hein? Parce qu'ils sont devenus mazos pour vivre dans la précarité. C'est les mêmes qui fraudent. Tous les 5 ans ou tous les ans, je ne sais même plus quand ils font les élections. Et puis les enseignants-chercheurs, ils se taisent, c'est des élites, ils sont formés pour défendre la République, cette République-là en danger. Et ils se sont au bébé. Et puis le pays en ruine, en déliquescence avancée. Comment? Non!
D'accord.
Il y a un certain monsieur à côté, électrophysicien, qui passait sur l'Ibala il y a 7 ans, il y a 8 ans. Après, il était passé avec une chaise roulante. Est-ce qu'il vit encore? Il faut qu'on s'approche de ce monsieur-là avant qu'il ne parte, quoi.
D'accord.
Et il a proposé 20 millions seulement pour donner l'électricité gratuite au Togo et même dans toute l'Afrique, non, je crois. Hein, il a proposé ça. On a du soleil à gogo.
D'accord.
Merci.
Ok, merci beaucoup, madame Issy. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir le dernier auditeur pour le compte de cette émission. 22 21 3314 91 36 63 75. Allô.
Oui, allô, bonsoir, monsieur.
Oui, bonsoir. Comment vous allez?
Ça va. C'est monsieur Kokou.
Monsieur Kokou, vous nous appelez de quel quartier?
Je veux poser la question à votre confrère,
oui,
qui disait
monsieur Kokou,
pourquoi depuis le temps Kokou, les enseignants.
Allô? Allô, monsieur Kokou?
Oui, allô?
Oui, allez-y.
Je voulais poser la question à votre collègue qui disait que depuis le temps de Kokou, pourquoi les enseignants et les financiers de l'université n'ont pas pu étranger et que c'est maintenant il faut.
Oui, le confrère s'est interrogé, allez-y.
Oui, c'est parce que, au temps de Kokoroko,
oui,
cette histoire est restée pendant sur des promesses. Et tantôt, c'est dans le mois prochain, on verra. Tantôt, c'est dans les mois à venir, on verra ce qui. Le budget n'est pas encore arrivé. Dès que le budget serait là, on verra ce qui. Donc, chacun rentrera dans ses droits. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est normal que les enseignants et les PAT se lèvent parce que les promesses, on en a eu de trop. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est un mouvement sur le campus universitaire. Il dit à Tara, il n'y a pas de manifestation. C'est parce qu'à Tara, vous connaissez la région de Tara, vous connaissez la ville de Tara. Ils sont menacés. ils sont tellement menacés là-bas. Hein? Donc, il n'a qu'à expliquer ce qu'il ne sait pas de la réalité des universités. Il n'a qu'à aller tout doucement. Il n'a qu'à venir à l'information au sein de l'université que de rester loin et de dire de nos quoi. Merci.
D'accord. Merci, Monsieur Kokou, pour votre intervention. Je pense que Monsieur Kokou, c'est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission, alors de ce lundi. Alors, nous revenons en plateau, chers confrères. Uriel.
Oui, je vais réagir rapidement sur les propos de trois personnes, commençant par Monsieur Kokou qui vient de terminer. Il fallait attirer son attention et dire il faut aller à l'information au lieu de dire de n'importe quoi. Je ne sais pas. Ce qu'on a dit de n'importe quoi, et il a plutôt répondu aux deux inquiétudes. Mais s'il est enseignant à l'université de Lomé ou à l'université de Kara, il vient de répondre à ces deux inquiétudes. Et je ne vois en quoi on a dit de n'importe quoi. On a dit clairement que l'université de Kara n'a pas débrayé. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, c'était des interrogations. Donc un enseignant à l'université, s'il est membre du personnel ou enseignant, il doit quand même prendre de la hauteur, sinon je suis désolé. Il a bien répondu, mais ça ne servait à rien. Je comprends sa colère. S'il est enseignant, je comprends sa colère. Nous-mêmes, on ne peut pas manifester nos colères ici comme ça. Donc, il n'a qu'à prendre son mal en patience et gérer d'une façon professionnelle. Deuxième personne, je pense, c'est monsieur, comment il s'appelle, monsieur Nyamavor. Monsieur Nyamavor qui disait qu'on a fait une comparaison séparatiste entre l'université de Lomé. Tu voulais le ramener à la raison, mais il n'a pas voulu entendre. On n'a pas fait une comparaison séparatiste entre les deux universités. Il rejoint le dernier qui vient de déverser sa colère inutile. On s'est vraiment posé cette question. Pourquoi les enseignants de l'université de Kara n'ont pas débrayé? C'est même en leur faveur. Donc, il faut qu'ils prennent... C'est une émission de grande hauteur, de grande écoute. Donc, il faut qu'ils prennent la peine de nous écouter dans nos opinions avant de réagir.
C'est très important.
C'est très important. Sinon, nous connaissons ici ce que nous disons. Et enfin, M. Yele, le groupe de pompage au niveau des bassins de rétention d'eau à De Lyon. Ce groupe, hier, j'étais là-bas pour faire la photo. C'est d'ailleurs la photo là qu'on a affichée à la manchette. Je me suis même approché de la force de sécurité, demander la permission et faire. Mais le groupe, je l'ai trouvé, il est fonctionnel. Le groupe fonctionnait jusqu'à ce que je ne quitte là-bas. Jusqu'à mon retour du bouclage du journal, il fonctionnait. Donc, je ne sais pas s'il y a deux lions ou c'est là-bas aussi.
Sinon, il fonctionne. Est-ce que tu saches, je pense quand même qu'il y a deux lions alors que nous connaissons très bien. Alors, oui,
non, Jacques. En une seconde, pour dire, pour certains qui disent que pourquoi j'épaule le président Kodar a autorisé les grèves, il dit mais écoutez, c'est dans la logique des choses. Voilà, aujourd'hui à travers cette grève, nous avons compris ce qui se passe dans l'université. Et je crois que celui qui vient d'appeler là, ça doit être un professeur.
Tout à fait.
Il a donné un enseignant.
Un enseignant.
Bon, je crois qu'il a donné quand même les raisons de pourquoi ce débrayage. Donc je crois que il faudrait aujourd'hui que et le ministre de l'enseignement supérieur et monsieur le président de l'université de Lomé et de Kara, ils n'ont qu'à tout faire pour trouver une solution définitive à ce problème. Parce que ça couvait au temps du ministre Kokoroko. Oui. C'est pas,
non, c'est pas autant de
voilà, M. Radama. C'est pas Kodar qui a amené ce problème. Donc, les gens, effectivement, s'asseyent et trouvent effectivement une solution à ce problème.
D'accord. Zé.
Oui, je pense aussi que l'université, notamment de Lomé, d'où nous sommes issus, les universités publiques, dont nous sommes les produits avant tout, avant de continuer nos chemins ailleurs, ont aujourd'hui besoin de la sérénité et de la tranquillité. S'il doit y avoir débat, que ce soit des débats d'idées, qu'on exclue la force par ici et par là, et que s'il le faut, le gouvernement prenne justement ce problème à bras le corps et résoudre rapidement ce problème pour qu'on évite. Parce que ça ne fait pas une bonne publicité et pour les universités publiques, que ce soit à Kara où les gens peut-être comme M. Kokou le dit sont menacés et donc n'ont pas pu sortir pour exprimer, ou que ce soit à Lomé où des gens ont quand même eu la possibilité de sortir pour l'exprimer, ça ne fait aucune bonne publicité à ces deux universités, ni au gouvernement, ni au chef d'État dont le nom est cité dans cette affaire, que c'est lui qui a promis Et ça ne se fait pas jusque-là, alors que ça se fait dans d'autres secteurs de la vie publique au Togo. Donc, il faut qu'on trouve rapidement des solutions à ce problème, et également au problème de tous les jours des Togolais. Vous voyez justement ce que nous disons, qu'on a pris tellement de retard sur un certain nombre de sujets, et le peut-être de résoudre, ça va être compliqué, mais il faut quand même qu'on commence, comme Jacques l'a dit, à partir de quelque part, pour espérer sortir de l'eau.
Oui, je reste avec vous pour votre note de fin d'émission.
Et pourquoi donner une note ? Notre note, c'est que qu'on puisse trouver des solutions aux difficultés de tous les jours. L'eau, l'électricité, l'eau, l'électricité, les enseignants. Jacques parlait des routes pour aller chez lui. Donc, vous voyez que c'est okay. Ça ma note.
Uriel, votre note de fin d'émission ?
Oh, bon, et une note, ça fait la troisième fois que je n'ai plus de note parce que objectif. Je suis toujours objectif. Objectif donc, lorsque ce n'est pas objectif, je n'ose pas aller sur le terrain, sauf que comme Didier, que le pays soit stable avec l'électricité stable,
avec moins de problèmes.
Stable, tout. Très bien.
C'est avec ça. Moins alors, de problèmes, je suis d'accord. Ouais. Alors, oui, Jacques.
Non, je voulais donner 9 sur 10 à l'Union nationale des conducteurs routiers indépendants du Togo, qui ont effectivement un centre de santé à Détikopé. Félicitations effectivement à l'Union qui a mis à la disposition des populations d'Adetikopé un centre de santé.
D'accord, merci. Justement, espérons que ce n'est pas inondé. Alors, merci beaucoup Jacques d'être passé dans cette émission. Didier, merci à toi. Uriel, merci. Je suis toujours très ravi d'animer cette émission avec vous. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci pour votre contribution aussi à ce débat. Et c'est ainsi que nous allons construire justement cet état démocratique que nous aspirons tous ensemble. Merci à vous tous. Michel Toumega, merci à toi. Jérôme Dakoucha, merci également à toi. On se retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. Je suis Pascal Lossou, portez-vous bien.